Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Leridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon et Nicolas Sandé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Pascal Baudin. Deuxième temps de notre série consacrée aux enjeux internationaux soulevés par le coronavirus, après avoir évoqué hier le retour du populisme en temps de pandémie, avant d'évoquer demain les plans de relance post-confinement et jeudi les mutations induites par le Covid dans le monde du travail, intéressons-nous aujourd'hui à la course au vaccin.
Nous avons trois vaccins qui sont dans la phase finale des essais cliniques. Ça aurait dû prendre des années, nous, on l'a fait en quelques mois. Nous aurons un vaccin sûr et efficace cette année, et ensemble, nous allons terrasser le virus.
Le premier vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré ce matin. Je sais qu'il est assez efficace, donne une immunité durable. Il a été soumis à tous les contrôles nécessaires.
Nous savons que nous ne pourrons vaincre le virus que si nous trouvons un vaccin. Et pour cela, il nous faut de la coordination à l'échelle mondiale, non seulement pour la recherche, mais aussi ensuite pour la fabrication. Il va falloir augmenter les capacités de production. Pour cela, il faut une coopération mondiale.
Donald Trump, Vladimir Poutine et Ursula von der Leyen, Washington, Moscou, Bruxelles, mais aussi Pékin, bien sûr, les puissances mondiales sont toutes lancées dans la course aux États-Unis, où plusieurs candidats sont en phase avancée de tests, et en Russie, où un vaccin a même été annoncé en grande pompe sans que les expérimentations ne soient publiées dans des revues scientifiques internationales. Donald Trump et Vladimir Poutine font de ce défi un enjeu personnel, tant vis-à-vis des autres dirigeants mondiaux que de leurs propres concitoyens. En Europe, à l'inverse, l'accent est mis sur la coopération sur la nécessité de rendre le vaccin accessible au monde entier. Une promesse également faite par la Chine, dont la communication se fait ces temps-ci plus discrète, mais qui a également commencé des phases avancées de tests. À ce rythme, un ou plusieurs vaccins peuvent légitimement être attendus dans les deux ans à venir, preuve qu'au-delà des rivalités géopolitiques, la course au vaccin contre le Covid constitue un rallye scientifique inédit, tant en termes de moyens utilisés, entre financement des gouvernements et précommandes massives, que de méthodologie, avec un protocole respecté, mais spectaculairement accéléré. Alors comment s'organise concrètement cette recherche du vaccin contre le Covid-19. S'agit-il d'une course entre laboratoires, entre firmes pharmaceutiques ou entre États? Une fois le vaccin obtenu, qui pourra en bénéficier? Pour évoquer certaines de ces questions et puis bien d'autres, nous avons invité ce matin Anne-Claude Crémieux. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Avec nous également Nathalie Coutinet. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes économiste à l'université Sorbonne Paris-Nord et chercheuse au Centre d'économie de Paris-Nord. Plusieurs laboratoires sont aujourd'hui entrés dans la phase 3 des essais cliniques, c'est-à-dire les phases de tests massifs sur l'homme. Parmi les, justement, ces candidats au vaccin, on a ceux qui sont proposés par Moderna, qui est une entreprise américaine, par Sinovac, un laboratoire chinois, et puis par AstraZeneca, pardon, qui est un laboratoire britannique, en fait, suédo-britannique, mais son siège social est à Londres, donc britannique. Et puis d'autres candidats vaccins sont aussi sur le point d'entamer cette troisième phase. Il y en a une petite dizaine. Finalement, quand on fait l'état des lieux aujourd'hui de cette course au vaccin, elle est plutôt en phase avec la réalité des acteurs géopolitiques de premier plan des 15-20 dernières années. On a les États-Unis, la Chine, la Russie et puis un peu l'Europe. On va commencer avec vous, Nathalie Coutinet.
Oui et non. Sur le marché du vaccin, en général, c'est fin. Habituellement, c'est plutôt l'Europe qui est en phase. Hein. Les grands acteurs du vaccin mondiaux sont plutôt des Européens, auxquels il faut rajouter Pfizer, qui est un Américain. Dans le cas de Moderna, on a une firme qui est très jeune, qui pour le moment n'a pas réellement fait ses preuves et qui apparaît, en tout cas, est montrée comme le leader de cette recherche sur le vaccin. Il faut aussi rappeler que dans le cas de cette recherche complètement atypique, hein, on a beaucoup d'États qui ont financé les recherches. Et donc, c'est pas seulement des firmes, ce sont des États qui interviennent, puisque le ministère de la Santé américaine, via ce qu'on appelle la BARDA, finance énormément de projets, que au niveau plus international et plutôt européen, on a une coalition qui s'appelle la CEPI, qui finance également souvent les mêmes projets, puisqu'il y a grosso modo huit candidats vaccins qui sont pour le moment vraiment sérieux. Donc on a aussi beaucoup de financement public, ce qui fait que cette course au vaccin, elle devient plus une course aux États, comme vous le disiez, qu'une course aux firmes. Alors évidemment, derrière, il y a des pharmaceutiques, hein, bien sûr, mais c'est aussi une course politique de savoir quel va être le pays dont la recherche est la plus développée, le plus innovant, qui va gagner. Et c'est un peu Trump, hein, il y a une espèce de fierté nationaliste à être capable de développer ce vaccin en premier. Il a même promis aux Américains que avant l'élection présidentielle, donc qui aura lieu en novembre, il y aura un vaccin, donc il souhaite annoncer le vaccin d'ici novembre. On voit que Poutine a annoncé aussi, alors ça semble peu crédible, mais sans doute madame est bien plus compétente que moi pour dire si ce vaccin est crédible, mais ça semble assez peu être le cas. Et puis on a évidemment la Chine qui se sert aussi de ce vaccin comme arme politique, puisque il y a quelques jours, le Canada a été sorti des pays qui pouvaient faire les essais, sous prétexte que le Canada détenait un ressortissant chinois et avait arrêté. Donc, on voit qu'il y a aussi un enjeu politique très fort derrière cette course au vaccin.
On va revenir évidemment sur nombre des acteurs privés et étatiques que vous avez évoqués, mais Anne-Claude Crémieux, en guise de première réaction, au fond, aujourd'hui, là, quand on fait un petit état des lieux, qui est le mieux placé dans cette course au vaccin ?
Non, vous l'avez dit, donc effectivement, on a 9 vaccins qui sont en phase 3, qui sont chinois, qui sont américains, russes. Effectivement, les Européens arrivant un peu plus tard, quoique AstraZeneca est considéré comme un vaccin de naissance européenne. Donc, effectivement, il est dans la course. Je crois que ce qui est assez remarquable, effectivement, c'est que on n'a plus les règles habituelles de recherche, de développement, et de financement et probablement d'autorisation de mise sur le marché que l'on connaît tous, qui aboutissait à des vaccins qui mettaient au minimum 5 ans, voire 10 ans. Et ça, c'est très clairement lié à la crise. On avait déjà vu un investissement des États assez important pour pousser les industriels à développer des vaccins. Vous savez, c'était le cas pour la grippe H1N1. Mais la grippe H1N1, c'était, je dirais, une technologie vaccinale connue, la technologie vaccin de la grippe qui est utilisée chaque année pour la grippe saisonnière. Et effectivement, les États avaient donné de l'argent pour réserver. Là, on assiste à un effort qui est absolument sans précédent, où effectivement, les États ont investi avant même d'avoir pratiquement les premiers résultats de ce candidat vaccin, et l'accélération s'est faite parce que tous ces industriels qui, vous l'avez aussi dit, se sont parfois associés, alors que ce sont des associations qu'on n'avait jamais vues, entre des firmes effectivement qui sont des firmes qui développent, qui sont des petites firmes mais qui ont cette avance technologique, qui s'associent avec des grands leaders d'industrialisation, de production, et effectivement, là, on a quelque chose qui aboutit à des délais qu'on n'avait jamais vus, qui sont de l'ordre de 1 à 2 ans, ce qui ne s'était jamais fait.
Et peut-être à la clé, un bouleversement du paysage pharmaceutique de demain. Il y a un acteur dont on n'a pas parler directement, c'est la France. Et pourtant, on a quand même un institut Pasteur qui, le pensait-on d'ailleurs, en tout cas, devrait être en capacité de jouer justement une carte dans cette course. Or, il se trouve qu'il semble, cet acteur, être un petit peu à la traîne, parce que non seulement ce qu'il est en train de développer n'est pas encore sûr d'être efficace, mais surtout, on sait déjà que si son candidat vaccin fonctionne, il ne sera pas produit en France, puisque c'est une entreprise américaine qui en a racheté la licence, en l'occurrence MSD. La France est à la traîne, Nathalie Coutinet, pour quelle raison ? Est-ce que c'est une question d'investissement ? Vous avez déjà l'une et l'autre, à plusieurs reprises, évoqué ce terme-là. La France n'a pas suffisamment investi dans le secteur et donc se retrouve naturellement à la traîne ?
Alors, c'est vrai que l'État français a peut-être débloqué des fonds, et encore pas beaucoup, un peu avec retard par rapport à d'autres pays. Les États-Unis se sont tout de suite mis dans le jeu. D'autres États, alors la Commission européenne, en revanche, a investi massivement. Donc, effectivement, la France, malgré un certain nombre d'annonces, ne s'est pas positionnée au départ au premier plan. Maintenant, Pasteur travaille. Alors, ce qui a été dit, ce qui est intéressant, c'est que quand vous parlez d'AstraZeneca, AstraZeneca n'est pas tout seul. Il est en lien avec l'université d'Oxford, par exemple. Donc, il n'y a pas, et c'est pareil pour l'Institut Pasteur qui travaille avec des universités. Donc, il y a une grosse partie d'échange de travaux. Il y a aussi, dès le début, quand même, un certain nombre d'informations, et ça, c'est aussi nouveau, sur le virus, sur la recherches qui ont été publiées, notamment par l'OMS. Donc, il y a eu un échange d'informations dès le début. Mais c'est vrai que dans la course au vaccin, alors que la France, et notamment Sanofi, est un leader de l'industrie du vaccin, c'est un très gros acteur via Sanofi Pasteur, c'est un énorme acteur du marché mondial du vaccin, là se trouve en retrait, parce que finalement, il a d'abord été financé par les États-Unis, mais ça résulte aussi d'accords anciens entre le ministère de la Santé américain et Sanofi. Donc, effectivement, les Français sont pas en premier plan. L'Allemagne, par contre, avec une firme qui s'appelle CureVac, est en premier plan.
C'est un acteur étonnant, celui-ci.
Ce n'est pas le cas de la France.
Anne-Claude Crémieux.
Alors oui, pour rebondir sur l'aspect politique, il est d'autant plus intéressant que finalement, les pays considérés comme leaders sur le plan de l'expertise en santé publique et de la défense contre le bioterrorisme ou les agents infectieux que sont les États-Unis ou l'Angleterre ont été pris en défaut dans cette crise. C'est-à-dire que au fond, cette expertise-là ne leur a pas permis d'être suffisamment efficace dans la lutte contre la pandémie, alors que la Chine a montré, il faut le dire, une certaine efficacité, même si elle est critiquée pour son manque de transparence. Et donc, le vaccin, c'est vraiment le rattrapage. Et on le voit très bien dans la façon dont Trump le présente. C'est le rattrapage. C'est d'accord, finalement, on a été pris par surprise, et nos mesures barrières, on est moins efficaces que les pays d'Asie, mais sur le vaccin, mais sur les tests, on est capable de mettre énormément d'argent et une puissance de feu, si je puis dire, qui est inégalée. Donc, il y a un vrai enjeu de rattrapage pour ces puissances.
Oui, il y a un paysage des précommandes qu'on va évoquer tout à l'heure qui est absolument incroyable. Alors, il y a un acteur qui, a priori, aurait dû être en avance, d'ailleurs peut-être l'est-il, c'est la Chine, puisque c'est de là que tout est parti. Donc, a priori, les scientifiques chinois devait avoir de l'avance. Alors, au début de la pandémie, on a beaucoup insisté sur le fait que les scientifiques chinois avaient fait preuve de beaucoup d'ouverture vis-à-vis de leurs collègues étrangers, laissant ouvert un certain nombre d'informations scientifiques de première importance pour espérer justement développer un candidat vaccin. Où en est la Chine aujourd'hui? Est-ce que justement elle a su garder cette avance? Ou est-ce qu'elle l'a perdue?
Non, clairement, la Chine fait partie des pays en tête, avec des technologies diverses.
Parce qu'on ne sait plus trop aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe.
Alors, on le sait quand même, on sait que ils ont, parce qu'ils publient, parce que à la différence de la Russie, nous avons les publications des résultats des vaccins candidats chinois. Et effectivement, ils ont déjà un premier vaccin qui est un vaccin avec une technologie très ancienne, qui est simplement les vaccins avec un virus inactivé. Celui-là, je dirais, il est parti très tôt et il est développé par Sinovac et on sait qu'il est déjà en phase 3. Il est même en pré-autorisation pour des populations extrêmement limitées. Ils ont un deuxième vaccin, enfin plusieurs vaccins d'une technologie complètement différente, qui sont des vaccins dont le gène protéique, ce qu'on appelle la spike protéine, qui est en fait la protéine qui est chargée de déclencher la réponse protectrice chez l'homme. Cette spike protéine est portée par des adénovirus. Ils ont deux vaccins de ce type-là. C'est la technologie qui est utilisée par l'équipe d'AstraZeneca et d'Oxford. C'est aussi une technologie qui est utilisée par le vaccin russe Sputnik. Donc, ils sont vraiment dans le groupe de tête avec des phases 3 en cours, on le sait, en Chine, dans
et pas seulement en Chine,
pas seulement en Chine, absolument.
Au Pakistan, j'ai vu qu'on développe des phases 3.
Dans d'autres pays, et on pense que au fond, on aura leurs résultats, je dirais dans un délai qui va être un mouchoir de poche entre les résultats russes, les résultats américains et les résultats chinois.
Nathalie Coutinet, sur cette avance chinoise.
Oui, je pense qu'ils sont effectivement dans la course. Ils ont démarré très tôt. Ils sont tout à fait dans la course par rapport à Moderna ou à AstraZeneca. Ils sont là.
Est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation où personne n'a le vaccin, un vaccin qui convient?
Alors, le scénario catastrophe.
Un peu très mieux.
Ce serait que tout à coup, de stimuler la réponse immunitaire par un vaccin entraîne une réponse paradoxale d'aggravation de l'infection naturelle contractée plus tard. C'est ce qui est arrivé pour la dengue et c'est ça qui a arrêté finalement le développement des vaccins. Mais la plupart des vaccins ne connaissent pas ce scénario et aujourd'hui, dans tous les éléments qu'on a, c'est-à-dire les phases expérimentales, les phases 1 et les phases 2, nous n'avons pas de signal qui montrerait que les vaccins qui induisent une immunité contre ce coronavirus pourraient induire un effet paradoxal d'aggravation. Mmh. Ça, ce serait je pense la seule chose qui pourrait empêcher la fabrication d'un vaccin. Parce que s'il n'y a pas d'effet indésirable gravissime, en fait, il y a tellement de technologies nouvelles qui sont essayées de façon parallèle et avec les premiers résultats qu'on a, encore une fois, dont l'essentiel sont publiés, on voit qu'on devrait y arriver. Je rappelle que c'est une maladie naturelle qui est immunisante. C'est pas comme le sida. Et donc, ça change tout. C'est-à-dire, on sait que les anticorps neutralisants qui sont induits par la maladie, par l'infection, sont des anticorps protecteurs. Donc, en fait, le vaccin, son rôle, c'est de reproduire ce que fait la maladie naturelle de façon probablement plus prolongée.
Donc, il y a des raisons d'être optimiste.
Absolument.
Nathalie Coutinet, tout à l'heure, vous avez évoqué un acteur sur lequel il faut se pencher, qui est CureVac. Parce qu'en Europe, il y a effectivement cet acteur qui est donc une société allemande qui a été créée il y a une vingtaine d'années. Elle semble tellement bien positionnée que, justement, le Donald Trump dont on parlait tout à l'heure avait accueilli son ancien DG, je dis ancien parce que depuis il a été remercié, à la Maison-Blanche, cherchant à racheter l'entreprise afin de la délocaliser aux États-Unis et d'obtenir les droits exclusifs pour son pays. Et la polémique a été telle que le DG en question a été débarqué quelques jours plus tard, et puis quelques semaines plus tard, pour bien montrer que c'est une entreprise allemande, il y a une banque publique allemande qui a investi dans la dite entreprise, qui, je le rappelle, il y a quelques jours a fait une introduction en bourse sur le Nasdaq qui a été remarquée, qui a fait considérablement grimper l'action. Qu'est-ce qui explique la réussite insolente de cette entreprise qui est quand même extrêmement récente et où on a, pas seulement, mais beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs historiques, dont les histoires remontent au milieu du 19e siècle? Comment est-ce qu'on fait pour en 20 ans?
Alors, il faut voir aussi que dans l'ensemble de l'industrie pharmaceutique, les méthodes de recherche ont changé ces dernières années. C'est-à-dire que de plus en plus, les firmes pharmaceutiques, que ce soit sur le vaccin ou sur le médicament, externalisent la recherche. Et cette recherche, elle est faite par ce qu'on appelle des start-up, hein, des petites firmes qui naissent. Et c'est l'histoire de Moderna, de CureVac, etc., qui sont donc des start-up qui sont montées sur des projets de recherche très précis, qui sont souvent cofinancés par des pharma, hein, des pharmaceutiques, et puis par du financement, ce qu'on appelle du capital risque, hein, du financement particulier. Et c'est aujourd'hui le modèle, hein, vraisemblablement, qui va se poursuivre, le modèle de développement des traitements, surtout dans les biotechnologies, c'est-à-dire les technologies nouvelles, parce que ce qui est saisissant dans ce vaccin, c'est que, comme ça a été dit, c'est-à-dire qu'il y a différentes technologies qui sont utilisées. On a effectivement une technologie un peu traditionnelle, type grippe ou rougeole, mais aussi on a, alors Madame Crémieux sera beaucoup plus pertinente que moi pour en parler, mais on a aussi les technologies ANR, avec et tout ça, c'est de la biotech, et ces technologies, elles sont extrêmement coûteuses. Et donc, les grosses pharma ont fait le choix d'externaliser la recherche, en général, dans ce type de technologie, compte tenu des coûts, de la complexité aussi technologique. Et ça explique le succès, parce que CureVac, on peut le comparer à Moderna, qui est une entreprise qui n'existait pas.
Qui a une dizaine d'années.
Oui, mais qui, pour le moment, n'a pas montré, n'est pas sortie de vaccin. Ce serait le premier vaccin, par exemple, que sortirait cette entreprise. D'ailleurs, l'action a été multipliée, elle a pris 500% dans l'année, parce que elle détiendrait potentiellement le brevet de ce futur vaccin, alors qu'avant elle avait pas grand chose pour le moment. C'est-à-dire que la recherche pharmaceutique, elle est tellement longue qu'on peut avoir des acteurs un peu anciens, mais qui font la recherche, parce que ça peut prendre 10 ans de faire un médicament, ça a été rappelé, un vaccin aussi. Et donc on peut avoir des firmes anciennes qui développent des technologies de recherche de pointe, mais qui n'ont pas encore de médicaments sur le marché, donc ont une valorisation de profit anticipé. Mais quand les choses s'accélèrent, quand on voit qu'elles vont avoir quelque chose, là, la valorisation boursière augmente très fortement.
Anne-Claude Crémieux, c'est ça le modèle pharmaceutique de demain ?
Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que un certain nombre d'idées, on pourrait presque dire de petits candidats vaccins, existaient déjà. C'est-à-dire, par exemple, toute la technologie développée avec les adénovirus est qui sont donc ces vecteurs viraux inactifs qui vont transporter la spike protéine pour qu'elle devienne effectivement, elle crée la réponse immunitaire chez l'homme. Ce sont des technologies qui avaient été fabriquées dans des laboratoires universitaires ou effectivement des biotech au moment du SRAS ou au moment du MERSCO. Donc deux autres finalement coronavirus zoonotiques à l'origine de cas très sévères. Eh bien, elles sont restées finalement en phase 1. Pourquoi ? Parce que le SRAS, comme vous le savez, a disparu en juillet 2003 et donc c'était plus du tout intéressant d'investir dans le vaccin. Le MERSCO, le coronavirus MERS, lui donne des cas sporadiques mais pas de pandémie, et finalement ces laboratoires universitaires, ces biotechnologies avaient rangé ces études et elles les ont ressorties en recherchant quoi ? Des partenaires de plus grosse taille qui ont l'habitude de faire des phases 3 et puis un investissement massif des gouvernements. Donc ça a changé la donne.
Dans ce paysage-là, la Russie a un modèle un petit peu à part. On est dans un cas où en réalité l'État s'entraîne. Tout.
Oui, ce qui est un peu aussi le cas d'un des vaccins en Chine, qui est porté par l'Académie universitaire des militaires. On comprend bien que c'est un vaccin qui est un vaccin étatique, si on peut dire. Effectivement, là, les modèles sont différents. Oui, c'est des modèles différents. La Chine, c'est depuis longtemps que on sait que la Chine a une capacité à développer des vaccins. Elle a développé des vaccins qui n'ont jamais franchi sa frontière, qui sont des vaccins qu'elle utilise. Non, parce qu'elle ne cherche pas à obtenir l'autorisation. Elle les utilise pour sa population. Et certains vaccins, nous, on ne les a jamais vus, que ce soit des vaccins humains ou des vaccins animaux. Là aussi, face à des aussi importantes, ils l'ont développé par exemple pour la grippe aviaire, des vaccins qui ne franchissent absolument pas leurs frontières.
Mais dans le cas du Covid-19, Nathalie Coutinet, on n'imagine pas que Pékin trouve un vaccin et qu'ensuite elle le garde pour elle. Elle va essayer de le vendre à l'étranger quand même.
Alors non, on n'imagine pas, évidemment, d'abord parce que le virus, rappelons-le, vient de Chine, donc il y a un peu quand même un problème par rapport à ce virus, et puis que d'un point de vue géopolitique, ça serait absolument impossible. D'autant aussi qu'il y a une course évidemment à la technologie vis-à-vis des Américains et de Trump. Donc on imagine la joie des Chinois de pouvoir
vendre aux Américains.
On vous vend. Regardez comme on est développé, comme notre recherche est efficace. On vous vend notre vaccin. Non, je pense que là, les Chinois se feraient un plaisir de vendre. Enfin, de proposer, même de faire des licences gratuites aux Américains.
C'est un scénario possible, ça ?
Je pense qu'effectivement, il y a un enjeu politique qui est absolument considérable. Rappelez-vous, je dirais, toute la propagande qu'a développée la Chine quand le virus est arrivé en Europe. On va vous donner des respirateurs, on va vous donner des masques, alors que nous, nous étions effectivement démunis. On voit bien que on a affaire, je dirais, à une politique diplomatique assez agressive. Il est évident que le vaccin fait partie de cette politique. Et là, on n'est plus du tout dans les vaccins confidentiels développés par la Chine, où effectivement, il n'y avait pas d'enjeu international de ce niveau.
Et alors, si on revient sur la Russie, il y a eu cette annonce effectivement, qui a surpris un peu tout le monde il y a quelques jours, avec Vladimir Poutine qui dit « Nous, on a, ça y est, un vaccin qui est assez efficace. » Peut-être d'ailleurs, on pourra revenir sur la formule « assez efficace ». On ne comprend pas bien ce que ça veut dire, c'est efficace ou c'est pas efficace. Enfin, mais est-ce que l'hypothèse d'une Russie qui finalement coifferait tout le monde au poteau est possible? Parce que les Russes ont d'excellents virologues. Ils ont baptisé, alors ça suffit pas, mais leur candidat vaccin Sputnik V, évidemment référence à cette satellite soviétique qui avait permis à l'URSS d'emporter quand même une manche sur les États-Unis dans la course aux étoiles. Est-ce que l'histoire peut se répéter? Est-ce qu'on pourra avoir un vaccin russe qui, oui, effectivement, est efficace et que tout le monde utiliserait?
Alors l'impression qu'on a aujourd'hui, d'après ce qu'on sait, c'est que effectivement, aussi bien les vaccins américains, qu'il s'agisse de l'adénovirus ou de vaccins Moderna, donc avec une nouvelle technologie d'ARN messager, que les vaccins chinois inactivés ou adénovirus, que le vaccin russe adénovirus, sont à peu près à la même phase. C'est-à-dire, ils sont tous en phase 3. La phase 3, c'est quoi? C'est finalement tester sur plusieurs dizaines de milliers de personnes le vaccin, en laissant une partie non vaccinée, une partie vaccinée. Et qu'est-ce qu'on regarde? Si dans le groupe vacciné, il y a moins d'infections. Bien entendu, ça doit se faire dans des pays où le virus circule de façon importante. Mais là, je dirais, malheureusement, ce n'est plus un problème puisque le virus recircule absolument partout. Donc, cette phase 3, elle va probablement aller assez vite en raison des conditions épidémiologiques. On aura des résultats dans un mouchoir de poste, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les résultats vont commencer à s'étaler à la fin de l'année et dans le premier semestre de 2021. Donc, on va pouvoir, quelque part, avoir sélectionné le vaccin le plus intéressant. Pas seulement sur sa rapidité, mais sur l'efficacité en phase 3 et aussi sur sa tolérance. N'oubliez pas que pour un vaccin, la tolérance, c'est quelque chose de considérable parce que c'est un médicament, enfin un produit administré à des gens qui vont bien et donc pas question de les rendre malades. D'autant plus que, rappelons-le quand même, cette infection, dans 80% des cas, les gens finalement, ils font une forme très modérée, voire minime. Donc
on aura toujours des effets secondaires à la clé.
Il y aura des effets secondaires, mais on va choisir en fonction de plusieurs critères et pas seulement la rapidité.
Nathalie Coutinet, dans l'hypothèse où la Russie sort un bon vaccin, pertinent et assez tôt, est-ce qu'elle pourrait le vendre à l'international? Ce qui va peut-être nous permettre de rappeler au passage comment on fait pour vendre, pour mettre sur le marché un médicament quel qu'il soit et le vendre partout dans le monde.
Alors, c'est possible techniquement, il n'y a pas d'impossibilité. Les vaccins comme les médicaments passent des autorisations de mise sur le marché par des organismes qui sont indépendants. La FDA, par exemple, aux États-Unis et en Europe, ça s'appelle l'Agence européenne du médicament, qui, au vu des tests qui sont fournis par les firmes, alors c'est là où ça peut être parfois gênant, mais au vu des tests, notamment des tests de phase 3 dont on vient de parler, c'est-à-dire des tests sur très grande cohorte, ces autorités de santé délivrent des autorisations de mise sur le marché. Donc s'il s'avère que le vaccin russe est à la fois efficace et non dangereux, les autorités n'auraient pas de raison d'empêcher son autorisation de mise sur le marché, sauf évidemment s'il y a un vaccin qui était meilleur, plus efficace, mieux toléré et peut-être aussi moins cher, mais ça, c'est les organismes de remboursement qui, en général, le décident.
Mais ce sont des agences indépendantes, je veux dire. Le politique ne peut pas interférer.
Voilà. Ce sont des agences.
Vous me suivez, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais bon, on sait que dans ces autorisations de mise sur le marché, vous avez aussi ce qu'on appelle des autorisations accélérées qui portent dans les pays, selon les pays, des noms différents. Et aux États-Unis, il y a eu des pressions politiques sur la FDA pour que notamment l'hydroxychloroquine soit ait une autorisation de mise sur le marché sur l'indication du coronavirus, parce que pour chaque médicament, on a une autorisation de mise sur le marché sur une indication précise. On peut pas utiliser n'importe quel médicament pour n'importe quelle maladie. Et cette autorisation de mise sur le marché de hydroxychloroquine, elle a été retirée finalement, puisqu'il s'avère que, sans rentrer dans les nombreux débats, et je suis complètement incompétente, il s'avère que l'hydroxychloroquine ne soit pas aussi efficace que on aurait pu, ou certains auraient pu le penser à un moment donné. Donc, il y aura des autorisations de mise sur le marché. Le danger qu'il y a ici, dans ce cas d'urgence, où on a une espèce d'urgence qui est aussi véhiculée par le fait qu'on n'arrête pas d'en parler, c'est que les autorisations de mise sur le marché soient données de manière trop rapide, sans que toutes les précautions nécessaires, parce qu'il a été rappelé par essence, un médicament, c'est un produit dangereux, parce qu'il va agir sur l'organisme, et donc il faudrait pas que, pour des raisons politiques, les autorisations de mise sur le marché soient données trop tôt, et que tous les tests qui sont nécessaires ne soient réalisés.
Est-ce que c'est à craindre, Anne-Claude Crémieux? Dimanche, le patron de l'Agence américaine des médicaments a annoncé dans un entretien au Financial Times qu'il était possible qu'un futur vaccin contre le coronavirus soit d'abord autorisé selon une procédure d'urgence avant la fin des essais cliniques censés confirmer la sûreté, l'efficacité du dit candidat vaccin. Mais il assure que, évidemment, tout cela se fera selon des critères d'abord et avant tout scientifiques. C'est certain, ça? Il n'y a pas un risque que l'urgence sanitaire, précisément, conduise à un certain empressement et que la science soit un peu dépassée par le politique? Ce ne serait pas la première fois.
Oui, enfin, à ce niveau-là, je pense que c'est quand même une des premières fois. C'est-à-dire que la pression politique aujourd'hui qui s'exerce sur les autorités sanitaires américaines, de ma mémoire en tout cas, j'ai jamais vu ça. Vous avez rappelé l'exemple de l'hydroxychloroquine. Il y a eu aussi l'exemple du plasma de convalescent. Vous savez qui a généré exactement la même polémique, c'est-à-dire que les autorités sanitaires ne voulaient pas, et finalement Trump a fait pression sur la FDA. Et là, on a le troisième exemple, et on comprend bien que les élections y sont pour quelque chose, où effectivement, clairement, les journaux américains en parlent, vous l'avez dit, il y a une pression extrêmement forte sur la FDA pour qu'il y ait une pré-autorisation avant même la fin des phases 3. Évidemment que ce n'est pas souhaitable, il y a un empressement et une pression politique, parce que encore une fois, un vaccin, c'est une arme absolument fantastique, mais il faut la mettre sur le marché avec les assurances que l'on peut donner à la population que ça ne crée pas d'effets indésirables trop importants. Et c'est aussi derrière tout ça la confiance de la population dans la vaccination qui est derrière. Donc, évidemment que à 3 mois près, on n'a pas envie de dire que il faut trop s'accélérer. La sécurité doit prévaloir, bien sûr.
Il y a une question aussi qui se pose, qui est celle de l'accès, parce que vous l'avez un peu dit l'une et l'autre tout à l'heure. Il faut rappeler que les États-Unis, mais aussi l'Europe, il y a la course scientifique, mais il y a aussi la course aux précommandes, c'est-à-dire que tout le monde a passé des accords, des contrats d'achat anticipés avec un certain nombre d'acteurs pour être sûr de bien avoir ses doses. Ça, on l'a fait du côté des États-Unis, on l'a fait du côté de l'Europe également. Et à chaque fois, c'est évidemment des milliards de dollars, d'euros à la clé. Dans un paysage, dans une course financière comme celle-ci, que peuvent les pays en voie de développement? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que dans quelques mois, quand on aura un vaccin, de toute façon, pour ces pays-là, ils n'auront pas l'accès à ces vaccins pour des raisons financières?
Alors, c'est une question extrêmement importante et qui est relativement complexe, parce que finalement, ça dépend de la firme qui trouvera. Les médicaments comme les vaccins sont soumis au régime des brevets, et ces brevets ont fait l'objet, il y a une vingtaine d'années aujourd'hui, d'accords à l'OMC, et les brevets sont aujourd'hui mondiaux. C'est-à-dire que quand une firme dépose un médicament, elle a le brevet mondial sur le traitement. Ce qui fait que ce brevet lui permet d'être en monopole, et ce monopole lui permet de fixer le prix qu'elle souhaite, et les prix sont ensuite négociés avec les organismes de remboursement, qu'ils soient publics ou privés. Si c'est Moderna ou Pfizer, par exemple, qui trouve en premier, donc qui aura le premier vaccin et qui déposera le brevet, ces acteurs ont déjà annoncé que leurs objectifs sont lucratifs, hein, donc de faire du profit. Et il y a déjà des prix qui circulent, c'est-à-dire autour de 50 à 60 dollars, notamment pour le vaccin de Pfizer. Dans le cas...
Pour les Américains ?
Non, alors c'est le prix du vaccin.
Donc tout, nous paierons, nous Européens, si on achète ce vaccin-là.
Après, il y a des négociations, c'est-à-dire que la firme dit « moi je veux 60 euros ». Elle s'adresse en France, par exemple, je vais dire à la Sécu, c'est pas tout à fait ça, mais on va simplifier les choses. Et il y a des négociations qui sont faites entre les acteurs. Dans ce cas-là, les autorités ont pas beaucoup de pouvoir, parce que s'ils disent non, la firme dit bon, tant pis pour vous, et puis au revoir. Ce qui peut se passer dans ce cas-là, c'est aussi que pour les pays les plus pauvres, les pays à faible ou moyen revenu, de même, les firmes proposent des prix plus faibles. Ça, c'est déjà vu. Ça, c'est le cas, par exemple, de ce qu'a fait Gilead pour le traitement de l'hépatite C. Donc la firme peut décider d'avoir des prix différenciés en fonction du niveau de développement du pays. Mais on peut aussi avoir le cas, puisqu'on a une autre alliance de recherche autour de ce qu'on appelle la CEPI, qui est une coalition internationale qui est aussi portée par la Gavi, qui est une alliance mondiale pour le vaccin, qui est aussi financée par Bill Gates, qui est un philanthrope, un acteur. Et ces acteurs-là ont, eux, très précisément dit que ce qu'ils allaient privilégier, c'est l'accès, c'est-à-dire un accès large pour tous. Et AstraZeneca, par exemple, a annoncé que le vaccin serait vendu à prix coûtant. Le deuxième, donc là, il y aurait, et on est autour de 1, 2, je sais plus si c'est euros ou dollars, mais enfin bon, peu importe. Enfin, un prix modique qui aussi peut, encore une fois, être plus faible pour les pays du Sud. Et puis, on a aussi dans les achats, et notamment dans les achats européens, puisqu'on a des montants d'achat qui sont de doses, hein, qui sont extrêmement importants. On a aussi des doses qui sont prévues pour les pays du Sud. Et puis on a aussi une
dans le cas de l'Europe, vous voulez dire.
Dans le cas de l'Europe
a prévu.
Voilà, l'Europe
une partie...
a prévu. Et puis on a aussi ce qu'ils appellent la Global Response for de Covid, qui est aussi une action européenne qui est portée par la Gavi et par l'Union européenne, enfin par la Commission européenne et sa présidente, qui milite pour un très large accès. Donc on peut avoir des scénarios très différents les uns des autres.
Anne-Claude Crémieux.
Oui, j'ajouterais que sur le plan sanitaire, on l'a vu, on est un monde, un tout petit monde finalement, et ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Asie, ça nous regarde. Et donc, il y aurait un intérêt évident que les pays dits riches se préoccupent de ce qui se passe dans les pays pauvres. C'est-à-dire que je dirais que si on laisse le virus diffuser en Afrique, évidemment qu'il peut se réintroduire chez nous. Donc, au-delà des aspects économiques, les États auraient évidemment, ont tout intérêt à éteindre l'épidémie dans ces pays-là, ce qui devrait pouvoir être favorable, en tout cas pour un vaccin à des prix extrêmement bas, même pour les pays qui auraient du mal à le payer.
Mais ce serait à l'OMS de s'occuper de cela, pas forcément aux États.
Ce serait l'OMS peut coordonner.
L'OMS a très peu de. Pardon.
C'est pas des moyens. Oui, c'est ça. L'OMS peut coordonner, comme d'ailleurs ils le font. Je dirais dans d'autres entreprises ou face à d'autres maladies. Si on prend par exemple les efforts faits pour le SIDA, il est clair que l'OMS intervient. Mais malgré tout, si vous voulez, les moyens viendraient
des
organismes internationaux.
Oui, de l'aide. Je suis d'accord, Nathalie, mais il faut quand même rappeler que cette question de l'accès qui se pose là de manière extrêmement importante et qui est très médiatisée, cette question de l'accès au traitement des pays du Sud, c'est une question qui n'est pas résolue. Parce que dans le cas au niveau international, hein, il y a encore beaucoup de pays qui ont très peu accès au traitement. Vous parliez des traitements sur le sida, donc les antirétroviraux. Ils ont été obtenus dans certains pays, dans les plus grandes difficultés, et c'est pas les médicaments de dernière génération qui sont accessibles pour les pays du Sud, mais plutôt les médicaments les plus anciens. Donc on a aujourd'hui Hein, il faut pas se leurrer. On a aujourd'hui sur un certain nombre de pathologies, en dépit d'actions qui sont très importantes, alors coordonnées par l'OMS, mais aussi par MSF, par MSF a une campagne d'accès au traitement international qui est très importante. On a Gates. Enfin, on a beaucoup de Wellcome Trust. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent parce que justement, c'est encore très difficile pour un certain nombre de pays du Sud d'avoir des traitements efficaces, des traitements récents sur un certain nombre de pathologies.
Oui, en sachant que quand même là, sur le plan sanitaire, encore une fois, l'incitation est plus forte parce que ce virus est à transmission respiratoire, il diffuse extrêmement rapidement à travers le monde, il suffit d'un passager qui arrive avec le virus, et par conséquent, je dirais, les pays du Nord sont beaucoup plus mis en danger par ce qui se passe au Sud, ce qui n'est pas le cas de toutes les pathologies, et même ce qui n'est pas le cas du VIH. Et on l'a vu d'ailleurs. L'Ebola, c'est un très bon exemple. L'Ebola, pendant très longtemps, on a considéré, à juste titre d'ailleurs, qu'il n'arriverait jamais en Europe, il n'arriverait jamais dans les pays, en Amérique, parce que les gens mouraient avant d'atteindre les villes. Le jour où Ebola s'est développé dans les villes et qu'on a vu le danger pour l'Europe ou l'Amérique, à ce moment-là, l'effort a été sans précédent et a abouti, comme vous le savez, au premier vaccin anti-Ebola. Donc là, nous sommes menacés par ce qui se passe partout dans le monde. Je pense que notre riposte sera plus importante.
On interviendra parce qu'on est menacés.
Voilà, bon. C'est ce que je voulais dire.
Vous avez raison. Et je voudrais rajouter qu'il y a effectivement la question des pays du Sud, mais il y a aussi la question, dans un certain nombre de pays, des populations les plus pauvres qui n'auront pas forcément, alors ça va dépendre des politiques qui sont mises en œuvre, mais le vaccin et les médicaments ne sont pas remboursés aussi bien qu'en France, dans un certain nombre de pays. Donc, on peut très bien imaginer que dans les pays développés, des populations seraient aussi exclues de la vaccination pour des raisons financières, sauf si, évidemment, des politiques publiques venaient prendre le relais.
Ouais, la fracture se joue pas seulement entre pays riches et pays pauvres. On est avec vous, Nathalie Coutinet, et vous, Anne-Claude Crémieux, autour de cette course au vaccin, alors que la course au vaccin contre le Covid-19 mobilise les chercheurs du monde entier. L'OMS a annoncé la semaine dernière la victoire d'un autre vaccin, celui contre le poliovirus sauvage, le pathogène à l'origine de la poliomyélite, maladie infantile pouvant provoquer une paralysie irréversible, a en effet été déclaré éradiqué du continent africain 4 ans après la détection du dernier cas. Mais ces résultats n'ont pas été obtenus sans difficulté et la persistance du virus en Afghanistan et au Pakistan notamment empêche de proclamer une victoire définitive et entière sur la maladie. Bonjour Bernard Cetrin.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de l'agence spécialisée en santé BNS Communication. Alors, on se réjouit évidemment de l'éradication de la poliomyélite en Afrique. Et en même temps, lorsqu'on pense qu'il y a un vaccin depuis les années 50, on se dit que ça a été extrêmement long d'en venir à bout. Comment il faut percevoir cette annonce de l'OMS ? C'est une grande victoire ou finalement, il faut avoir le triomphe modeste ?
Je dirais le triomphe modeste parce que pour l'instant... Quand on parle d'éradication, le triomphe, c'est quand on est parvenu à l'éradication à l'échelle mondiale. Hein. Ce qui est intéressant de noter sur l'histoire de cette éradication de la poliomyélite, c'est que elle a été décidée en 1988 avec comme objectif l'éradication mondiale en l'an 2000. Et 20 ans après, on n'est toujours pas arrivé à l'éradication, puisque vous avez rappelé qu'il y a une région d'Asie où il y a toujours les cas. Et pourtant, il y avait toutes les données biologiques, toutes les conditions biologiques pour l'éradication, puisqu'on a deux vaccins qui sont complémentaires, efficaces, et il n'y a pas de réservoir animal. Et là, 20 ans après, l'éradication n'a pas eu lieu. C'est donc, j'espère que l'éradication finira par avoir lieu, mais c'est quand même un échec. 20 ans de retard, c'est énorme. Pourquoi cet échec ? Eh bien, parce qu'il y a eu des réticences, des résistances parfois très fortes dans la population qui refusaient de voir ses enfants vaccinés.
Alors on va y venir justement sur la question de l'Afghanistan et du Pakistan, mais je voudrais indiquer que depuis cette annonce de la semaine dernière, il y en a eu d'autres de l'OMS concernant le poliovirus vaccinal de type 2 qui a été détecté au Soudan. Il y a même des cas qui ont été rapportés du côté de l'Éthiopie et de la République centrafricaine et même du côté du Tchad. Donc en réalité, l'annonce de la semaine dernière est peut-être pas aussi réjouissante qu'on aurait pu l'espérer. S'agissant justement de cette difficulté à vacciner les populations, quand on regarde du côté du Pakistan et de l'Afghanistan, qui sont deux foyers encore importants malheureusement, pourquoi on n'arrive pas justement à faire reculer cette maladie dans ces deux pays-là ?
Alors, parce que il y a des rumeurs qui se sont propagées dans la population, rumeurs sur lesquelles ont surfé et continuent à surfer les mouvements islamistes radicaux, rumeurs selon lesquelles le vaccin, en fait, visait à stériliser les enfants pour limiter la population musulmane. Mais on a eu les mêmes rumeurs et le même type de réticence ailleurs dans le monde. Ça a été le cas notamment en Afrique, dans le nord du Nigeria, où là, ça a été après coup utilisé par Boko Haram. Mais ces rumeurs ont commencé à circuler avant que les mouvements islamistes les utilisent. Donc c'est très important de se demander pourquoi. Parce qu'on a 20 ans de retard sur l'objectif d'éradication. C'est énorme. Donc pourquoi ? Finalement, c'est assez simple. Quand vous avez des populations complètement déshéritées, qui ont très très peu de services de santé, et que vous avez des gens qui viennent en 4x4, avec des tambours et des trompettes au sens propre du terme, souvent pour faire beaucoup de bruit, des banderoles, etc., pour dire « faites vacciner vos enfants, laissez-nous mettre 3 gouttes de produit dans la bouche de vos enfants pour leur santé », évidemment, ça crée la méfiance. On se demande pourquoi, quand on est dans un endroit où il n'y a pas les services de santé élémentaires très souvent.
Peut-être que s'agissant du Pakistan, on peut, parce que c'est comme malheureusement souvent, les théories du complot, elles s'appuient aussi sur des choses, sur des véritables choses. C'est bien la difficulté. Et s'agissant du Pakistan, il faut peut-être rappeler l'histoire de ce médecin qui avait été... il ne savait pas qu'il allait donner cette information à la CIA, mais en tout cas, il est aujourd'hui considéré comme un traître parce qu'il a aidé à la localisation de Ben Laden.
Oui, effectivement, la CIA a utilisé une campagne de vaccination qu'ils ont organisée eux-mêmes pour, grâce aux aiguilles utilisées pour l'injection de vaccin. Alors, c'était pas le vaccin polio dont nous parlons là, c'est un vaccin injectable. Bon, grâce à ces aiguilles, identifier l'ADN des enfants qui avaient été vaccinés et ainsi vérifier que c'était bien Ben Laden qui était dans l'ensemble de bâtiments qu'ils soupçonnaient. Mais ça, c'est venu après. Encore une fois, les résistances dans la population, elles sont bien antérieures, puisque je rappelle que l'éradication était prévue pour l'an 2000. Il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, souvent, on occulte le problème de fond qui est celui de la résistance de la population. Et à mon avis, parce que la campagne d'éradication n'a pas été présentée dès le départ comme elle aurait dû l'être à la population, avec les explications nécessaires. Donc, si vous voulez, si on met trop en avant l'utilisation par les islamistes du sentiment anti-vaccination, on occulte la raison profonde. Encore une fois, s'il n'y avait pas des réticences dans la population, les islamistes n'auraient rien à se mettre sous la dent sur ce plan-là.
Et aujourd'hui, est-ce que, par exemple, au Pakistan, il y a des efforts qui sont déployés pour essayer justement de faire accepter ces campagnes de vaccination ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Dans le nord du Nigeria, quand il y a eu des réticences et que l'éradication a été en échec flagrant, des stratégies ont été mises en place pour associer des imams, etc. Et l'OMS a réussi à éradiquer le virus polio sauvage du Nigeria. Mais là, actuellement, la situation, elle est très compliquée, puisque si on regarde le nombre de cas, il a été multiplié par 5 entre 2018 et 2019. Dans ces régions Pakistan-Afghanistan, et depuis le début de l'année, on a encore une augmentation de près de 50% par rapport au nombre de cas de l'année dernière. Alors, donc le problème est loin d'être résolu, et c'est un gros souci, parce que depuis le début de l'année, on a 102 cas en Pakistan et en Afghanistan, mais il faut savoir que pour un cas identifié, il y a environ 200 enfants qui ont été contaminés par le virus, mais asymptomatiques. Donc il faut multiplier 102 par 200, et donc on arrive à plus de 2000 cas. Vous voyez ? Donc la situation est c'est en augmentation dans cette région du monde. Donc la situation est très compliquée.
Je voudrais faire réagir nos invités Anne-Claude Crémieux sur ce cas de la poliomyélite. Est-ce que l'hypothèse d'une résurgence globale de la maladie est possible à craindre ?
Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'une grande partie de la population est vaccinée. On voit bien d'ailleurs si on regarde le cas de la France, c'est un des vaccins d'ailleurs obligatoires et on a une très bonne couverture vaccinale jusqu'à un certain âge. Donc résurgence mondiale, peut-être que votre interlocuteur le saura mieux que moi, mais je pense pas. Par contre, effectivement, l'effort que fait l'OMS. non pas seulement d'ailleurs en vue d'une éradication, mais d'une élimination. Effectivement, on voit bien que c'est extrêmement difficile et que finalement on a, je crois, une maladie qui est éliminée, finalement la variole.
Nathalie Coutinet, l'inventeur du premier vaccin contre la poliomyélite, c'est un certain Jonas Salk, qui est un biologiste américain, et lui avait choisi de ne pas breveter justement son vaccin pour le rendre le plus accessible possible. On parlait tout à l'heure de la question de l'accès. Est-ce que ça veut dire que les laboratoires n'ont pas tiré de bénéfices financiers de ce vaccin-là ?
Non, ça veut dire que tout laboratoire qui souhaite le produire peut le produire, sans avoir à payer une licence ou avoir l'autorisation d'abord du détenteur du brevet et avoir à payer en général des royalties pour utiliser le brevet. Ça veut dire qu'il peut être produit largement et que du coup il peut être vendu à un prix beaucoup plus faible parce que il n'y a pas besoin de payer ce qu'on appelle en économie cette rente de monopole, c'est-à-dire payer un prix plus élevé pour avoir l'accès aux détenteurs de brevets.
Ça a quand même favorisé considérablement.
Alors effectivement, dans la mesure où il peut être produit de manière libre, tout et notamment des acteurs du Sud, hein, parce que on a les Indiens notamment sont des grands producteurs historiques de médicaments, peuvent produire à coût faible, enfin à prix faible, et donc ça fait baisser très fortement le prix du traitement et ça favorise évidemment l'accès. Ça ne résout pas les problèmes d'information ou de campagne de prévention, mais c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui militent pour que les médicaments ne soient plus brevetables. Et moi, j'aime à rappeler qu'il y a eu des débats sur les brevets des médicaments entre les deux guerres et que les arguments qui étaient développés contre le brevet, c'était qu'un brevet limiterait l'accès au traitement, que ce soit les vaccins ou les médicaments. Et en plus, il y avait un deuxième argument qui est un argument moral, selon lequel il n'était pas sain de faire des bénéfices, enfin des profits élevés, hein, il faut évidemment rentrer dans ces dépenses, mais des bénéfices sur la santé publique. Alors, vous voyez qu'on est, avec la pression des acteurs, des firmes et l'industrialisation du secteur de l'industrie pharmaceutique, on est beaucoup sorti de ces premières idées, mais elles restent vraies, enfin, elles restent entendables. C'est-à-dire qu'un des problèmes majeurs d'accès au traitement dans les pays du Sud ou même dans les populations négligées, c'est une question du prix. Et cette question du prix, elle est largement liée à la question des brevets. Is this people's worst fear? Is it a pandemic? Stop the madness. Stop this madness. We don't need it. Let it go. Stop the virus. Stop this madness. We don't need it. Let it go. Stop the virus. Merci beaucoup à tous les trois. Bernard Sêtre qui est avec nous à l'instant par téléphone. Un grand merci Anne-Claude Crémieux. Je rappelle que vous aviez écrit il y a quelques temps maintenant « Gouverner l'imprévisible pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire ». On mettra la référence sur la page de Culture Monde. Grand merci également à vous Nathalie Coutinet. Vous, c'était « Économie du médicament ». Paru à la découverte et on mettra également la référence sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup.
Merci
nous poursuivrons demain notre série consacrée au Covid-19, une rentrée sous tension. On parlera de relance économique, mais pour l'heure, c'est Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Suite de vos chroniques sur l'état du débat concernant les rapports entre la science et la religion dans le monde, hier vous releviez un net recul des religions selon une enquête récente en tout cas. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, on parlait d'une revanche de Dieu. Que s'est-il passé Brice ?
Eh oui, souvenons-nous que plusieurs sociologues avaient cru déceler un regain religieux général même en Europe à la suite de l'effondrement du communisme. La disparition de la dernière idéologie tout englobante, de l'ultime grand récit, comme on disait, était censée avoir créé un appel d'air dans lequel pouvaient s'engouffrer les religions. D'autant que le communisme, idéologie matérialiste, avait persécuté à des degrés divers les croyants et que dans certains pays d'Europe centrale, l'identité nationale était fortement corrélée à une religion particulière. On pense évidemment au catholicisme en Pologne, mais pensons aussi à l'orthodoxie en Russie. À cette époque, la révolution iranienne avait démontré que l'islam était redevenu une importante force politique et les États-Unis, avec George W. Bush, avaient élu un président évangélistes. Et de fait, dans l'étude de 2008 du World Value Survey, dans 33 des 49 pays étudiés, la religion n'était pas du tout en baisse, mais en hausse. La tendance s'est donc récemment inversée. Le déclin de la religiosité est un phénomène presque universel, avec pour seules exceptions les 18 pays musulmans couverts par cette étude. Mais le cas le plus frappant, c'est bien celui des États-Unis. À la question « Dieu joue-t-il un rôle important dans votre vie ?», les Américains obtenaient une moyenne de 8,2 sur 10 dans l'étude d'il y a 12 ans, et aujourd'hui c'est tombé à 4,6. Alors les causes de ce déclin soudain et accéléré, elles sont sans doute politiques autant que générationnelles. Depuis 1990, le Parti républicain s'est en effet identifié avec les positions les plus conservatrices face aux évolutions sociétales. Il a lutté en vain contre le droit à l'avortement, contre le mariage homosexuel, et il s'est ainsi aliéné nombre d'électeurs éduqués des jeunes générations. Alors que le mouvement des droits civiques du pasteur baptiste Martin Luther King était profondément ancré dans des valeurs chrétiennes, les églises protestantes sont à présent compromises par le soutien massif des évangélistes à Donald Trump, lequel n'est pourtant pas un modèle de vertu, comme l'explique fort bien Todd Gitlin dans l'avant-dernier numéro de la revue Le Débat. Quant aux catholiques, même s'ils ont reçu aux États-Unis l'appoint de millions de latinos venus d'Amérique centrale, ils paient le scandale des prêtres pédophiles par une baisse sensible de la fréquentation des églises.
Et alors Brice, y a-t-il des changements concernant les pratiques religieuses elles-mêmes? En quoi les modes de vie aux États-Unis influencent-ils les pratiques religieuses?
Jack Miles considère que ce qui tue les religions aux États-Unis, c'est l'individualisme des jeunes générations. La précarité des emplois, la nécessité d'être prêt à partir vers une nouvelle opportunité de travail ont rendu fragiles tous les engagements personnels. Cette génération a pris l'habitude de ne compter que sur soi-même. Ses membres ne participent plus au culte, mais ils n'adhèrent pas non plus aux partis politiques et encore moins aux syndicats. Et ils ne se marient guère. Et de citer le fameux livre du sociologue Robert Putnam, hélas non traduit en français, « Bowling Alone ». Faire du bowling tout seul. À noter que Putnam lui-même a publié il y a 10 ans, en collaboration avec le politologue David Campbell, une étude très importante sur la religion aux États-Unis qui s'appelait American Grace, How Religion Divides and Unites US. Ils y relevaient une polarisation en matière religieuse qui annonçait l'actuelle polarisation politique. Le paysage leur paraissait marqué par un antagonisme de plus en plus marqué depuis les années 90 entre la droite religieuse conservatrice, apparue dans les années 70-80 en réaction à la libéralisation des mœurs des 60s, et puis les millennials qui sont eux très hostiles à cette réaction conservatrice. Mais pour en revenir à Jack Miles, il vient de publier un livre intéressant intitulé « Religion as we know it, an origin story ». Cet universitaire a derrière lui un parcours original parce que c'est un ancien jésuite qui a rompu avec le catholicisme. Et il enseigne aujourd'hui l'étude comparative des religions, et son livre « God, a Biography » lui a valu en 1995 le prix Pulitzer. Or, il met en question l'habitude occidentale, héritée du christianisme, de considérer la religion comme une sphère séparée de la vie ordinaire, parce qu'il n'en va pas du tout de même dans la plupart des autres religions, explique-t-il. Le christianisme, parce qu'il s'est développé initialement au sein de l'Empire romain, qui possédait donc une religion civique officielle, a dû en effet composer avec cet environnement problématique. Ses fidèles ont tenté de démontrer à des autorités politiques méfiantes envers ce culte oriental qu'ils n'étaient pas du tout de mauvais citoyens. D'où une césure initiale entre le religieux d'un côté, le politico-civique de l'autre, qui n'existe pas dans les autres cultes en réalité. Parce qu'elle avait d'emblée une visée universaliste, cette religion, le christianisme, a insisté sur le fait qu'elle était indépendante de toute politique, de toute culture, de toute ethnie. Ce qui a permis, entre parenthèses, à ses missionnaires d'accompagner l'impérialisme colonialiste européen.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.